Le MAG, le magazine d'information de Montpellier Méditerranée Métropole.
Le MAG numéro 4, avril 2015. Bienvenue dans la version sonore du magazine d'information de Montpellier Méditerranée Métropole.
À la une, le Parlement des territoires et l'appel de Castries. C'est l'événement qui illustre plusieurs photos sur cette page. L'Assemblée des présidents d'intercommunalités couvrant 6 départements qui ont répondu à l'appel de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier. Les élus sont réunis en séance plénière, puis posent devant l'entrée du château de Castries. Un autre cliché propose également une vue imprenable sur les jardins du château.
Au sommaire de votre magazine, CD1, plage 3.
Édito.
CD1, plage 4.
Dans l'actu.
CD1, plage 5.
L'événement Parlement des territoires, acte 1.
CD1, plage 6.
Décision.
CD1, plage 7.
Commune, à Clapiers, prenait de la hauteur avec format drone. Les Beaux-Arts en résidence à la Vérune, un marché en circuit court à Murviel-les-Montpellier. À Sussargues, le collectif Random est de retour, un marché éco-citoyen à Montaut.
CD1, plage 8.
Promenade, Fabregue soigne sa nature.
CD1, plage 9.
En action, culture au musée Fabre, l'art à ses mécènes. Sport, 9 arènes pour un trophée. Transport, l'accessibilité, une nécessaire solidarité. Numérique, la French Tech dévoile sa stratégie. Santé, ils sont de retour.
CD2, plage 1.
Dossier climat, des solutions d'avenir.
CD2, plage 2.
Rencontre, Ilionis Guillaume, athlète en conquête.
CD2, plage 3.
Pichoun, Écolothèque, revisite ton alimentation.
CD2, plage 4.
En image, Mickaël Guigou, handballeur au Montpellier Handball.
CD2, plage 5.
Languedoc.
CD2, plage 6.
En vadrouille au fil du Gardon.
CD2, plage 7.
Rendez-vous.
CD2, plage 8.
Forum.
L'édito de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier. Faire de la politique autrement.
Décider avec les maires des 31 communes du territoire, nouer des partenariats avec les présidents des intercommunalités voisines, consulter les représentants de la société civile, échanger avec vous, habitants de Montpellier Méditerranée Métropole. Tout cela incarne ma volonté de faire de la politique autrement, sans clivage, sans frontières, sans carcan. Une nouvelle gouvernance promise lors de mon élection à la tête de cette collectivité le 15 avril dernier est mise en œuvre au fil des mois à l'agglomération aujourd'hui métropole. Cette nouvelle gouvernance consolide le fonctionnement démocratique de notre collectivité. Elle est attentive aux citoyens, aux territoires, aux politiques de projet.
Une volonté d'ouverture.
Nous avançons ensemble, nous construisons en équipe une métropole concertée et solidaire. J'ai à mes côtés les élus, les maires des 31 communes, mais aussi les membres du conseil de développement. Je compte sur ces femmes et hommes de la société civile pour contribuer par leur savoir-faire et leur imagination à ce dessein. Je compte sur les présidents des intercommunalités réunis dans le Parlement des territoires pour mener à bien des projets de concert dans le respect des libertés et des prérogatives de chacun. Nous avons tellement de choses à porter ensemble, l'avenir de nos territoires en dépend. Montpellier s'est développé pendant très longtemps contre le reste du monde. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une grande région englobant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Nous avons été précurseurs en initiant le dialogue avec Toulouse. Cette ouverture se poursuit dans un esprit positif de construction. La coopération est le fondement de notre intercommunalité. Je l'applique aujourd'hui à plus grande échelle, autre temps, autre mœurs.
Et puis vous avez la parole, Montpellier Méditerranée Métropole met à votre disposition une boîte à idées en ligne sur montpellier3m.fr ou sur nousfer.com/montpellier3m. Chaque mois, nous publions deux de vos propositions. En voici deux justement.
Et celle de Guillaume, tout d'abord, relier l'aéroport au centre-ville. Trouver un partenariat avec Moggio et la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour relier efficacement l'aéroport et le centre-ville de Montpellier.
Eh bien Guillaume, c'est en cours. Les deux présidents de ces collectivités se sont rapprochés à ce sujet, affichant leur volonté de travailler ensemble. Cela fait partie des projets de la métropole en matière de transport et c'est un exemple des partenariats potentiels dans le cadre du Parlement des territoires qui a été initié le 25 mars.
Autre proposition, celle de Ludovic, composteur collectif pour résidence. Pourquoi ne pas ajouter dans les résidences, en plus d'un local à poubelle, un composteur collectif afin de déposer nos détritus compostables ?
Tonte de pelouse, fleurs fanées et épluchures se transforment en effet en un excellent compost et permettent de réduire les déchets. 42 résidences sont déjà équipées gratuitement de composteurs en pied d'immeuble. Si vous souhaitez mettre en place un composteur collectif dans votre résidence, il vous suffit d'appeler le 0800 88 11 77. Dans l'actu, Montpellier Danse, la billetterie est ouverte. 20 chorégraphes venus de 13 pays sont à l'affiche de cette brillante édition qui ouvre avec le Ballet National de Marseille, la plus grande compagnie après Paris, encore jamais vue à Montpellier. 12 créations seront présentées, dont celle de Rad Narin, la Batcheva, et d'Anne Teresa de Kersmaker, toujours très attendue. Parmi les surprises, on notera le duo entre deux monstres sacrés, Israël Galvan, inspiré par le flamenco, et Akram Khan, qui puise dans la danse traditionnelle indienne, mais aussi la présence de Farouquito, le James Dean du flamenco. Cette édition sera aussi dans la rue avec les représentations gratuites des danseurs du ballet de Marseille à Castelnau-le-Lez, Juvignac, Saint-Drézéry et Saint-Georges-d'Orc et 16 grandes leçons de danse données par des chorégraphes dans les quartiers de Montpellier à Laverune, Castries et Clapiers. La danse a sa place dans la cité et dans l'espace public, estime Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, principal financeur du festival. Elle est un des quatre axes fondamentaux de notre politique culturelle avec l'art contemporain, le patrimoine et le cinéma, le tout avec une ouverture sur la Méditerranée. Pour réserver en ligne vos places, vous tapez montpellierdanse.com ou par téléphone 0800 600 740.
Computa Center s'installe. Jeudi 9 avril, la société britannique Computa Center inaugurera son nouveau centre de service dans le bâtiment Le Liner à Pérol. Forte de 1300 salariés dans le monde, l'entreprise va créer 300 emplois dans les 3 ans. 50 ans après l'implantation d'IBM et 20 ans après celle de Dell, la métropole accueille un nouveau géant de l'informatique. Accompagné par Montpellier Méditerranée Métropole, l'installation de Computa Center confirme l'attractivité économique de notre territoire. Le site de Montpellier sera dirigé par Arnaud Lépinois, directeur des Manage Service France. Plus d'infos sur computacenter.fr.
La médiathèque Victor Hugo fait peau neuve. Depuis 20 ans, la médiathèque Victor Hugo de Montpellier Méditerranée Métropole, installée à la Croix d'Argent, propose ses services sur un secteur qui s'étend aujourd'hui au quartier d'Ovalie et des Grisettes. Afin d'offrir un meilleur accueil du public, un important chantier de modernisation et de mise aux normes de cet équipement a débuté fin mars, réouverture prévue le 15 juillet. Plus d'informations sur médiathèque.montpellier3m.fr.
Montpellier Méditerranée Métropole est sur Twitter. Montpellier Méditerranée Métropole a ouvert son compte officiel. Il porte le même nom que l'URL du site internet @Montpellier3M. Alors qu'elle existe depuis moins de 3 mois en tant que métropole, la collectivité a choisi d'élargir sa présence sur les réseaux sociaux. Après la page Facebook Montpellier Méditerranée Métropole, actualisée plusieurs fois par jour et qui compte aujourd'hui plus de 40 000 fans, Twitter permet d'ouvrir la communication sur les politiques publiques qu'elle porte auprès d'un plus large auditoire. Vie des équipements, agenda de la collectivité, informations pratiques dans des domaines aussi divers que les transports, le sport, le numérique, la culture ou les réseaux des piscines et des médiathèques. Vous saurez tout en nous suivant sur Twitter. Bienvenue sur @Montpellier3M.
Dans l'actu, la société civile s'engage avec la métropole. Instance de concertation civile, le Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole est constitué. Sous la présidence de Katia Vidic, chef d'entreprise et militante de la French Tech, ses 200 membres apporteront leur expertise citoyenne au projet de la collectivité. Cette adepte des valeurs de l'entreprise collaborative a à cœur d'accompagner l'action publique par le travail en équipe et le partage des idées.
Je souhaite faire du Conseil de développement une start-up citoyenne, a annoncé Katia Vidic, directrice générale de Nélis, lors du premier rassemblement de ses membres le 4 mars dernier. À 34 ans, cette chef d'entreprise très investie dans la French Tech, passionnée de danse et ex-boxeuse, a le goût des challenges comme celui que lui a confié Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, présider le nouveau conseil de développement de la collectivité. Ce conseil de développement est un lieu de brainstorming où les gens confrontent leur savoir pour faire des propositions intelligentes et éclairer les choix des élus de la métropole, précise Philippe Sorel.
Obligatoire. obligatoire de par la loi, la composition de ce nouveau conseil de développement a été renouvelée, féminisée et ouverte à un nombre de professions très variées. Architectes, professeurs, présidents de clubs sportifs, entrepreneurs, journalistes, artistes ou encore médecins, ils sont au total 200 membres à participer bénévolement à ce conseil, à investir du temps pour participer à la construction de la métropole. Un représentant du conseil de développement de Tau Aglo fait également partie du conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole et vice-versa, afin de développer les partenariats entre les deux collectivités. 6 vice-présidents sont à la tête de 6 commissions correspondant aux 6 piliers de développement de la métropole: la santé, le développement numérique, la mobilité et les déplacements, le développement économique et touristique, l'agroécologie, alimentation, le patrimoine, la culture et l'égalité des chances.
La démocratie participative et l'esprit collaboratif sont au cœur de ce conseil de développement où sont appliquées les méthodes de travail d'une start-up. À sa tête, Katia Vidic met en œuvre sa devise empruntée à un proverbe africain: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous sommes une force de proposition, un laboratoire d'idées pour faire rayonner notre beau territoire, résume cette mère de famille qui appelle les membres du conseil de développement à faire preuve d'audace. Prochaine séance le 9 avril. Et sur cette page, on aperçoit Philippe Sorel le 4 mars dernier, accompagné de Katia Vidic à l'occasion du lancement du conseil du développement de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous pouvez retrouver tous les membres du conseil de développement sur montpellier3m.fr/conseil-de-développement.
Perfect Hand Crew à Bourges. Perfect Hand Crew, c'est le nom du groupe de musique urbaine montpelliérain qui a été sélectionné pour représenter la région lors de la 30e édition des Inouïs du printemps de Bourges, Crédit Mutuel 2015. Accompagné par Victoire 2, la structure de musique actuelle de Montpellier Méditerranée Métropole, ce trio composé de Mago, Testy Took et Billy fait partie des 32 artistes qui se produiront sur la scène du mythique festival du 24 au 29 avril. Groupe de live plus que de studio, les montpelliérains auront à cœur de partager toute leur énergie et leur bonne humeur avec le public. Vous pouvez d'ailleurs les suivre sur Facebook, bien sûr, facebook.com/perfecthandcrew.
Le micro-tunnelier Michel sous la Pompignane. La réalisation de l'intercepteur Est qui collecte les eaux usées de 14 communes vers la station d'épuration Maera se poursuit sous l'avenue de la Pompignane, sans trancher, grâce au micro-tunnelier Michel. Et comme le veut l'usage dans la profession, il a été baptisé d'un prénom féminin en hommage à Michel Dreyfitoussi, conseillère municipale de Montpellier, qui est en photo ici. Elle est entourée d'ailleurs par Jean-Pierre Grand, sénateur maire de Castelnau-le-Lez, de Michel Deblaise, directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. On aperçoit également René Revol, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué au service public de l'eau et de l'assainissement, et Titina Da Silva, conseillère métropolitaine et adjointe au maire de Montpellier. Vous avez toutes les infos sur montpellier3m.fr.
Le numérique au service de la mobilité, Faciligo et MyCast, deux projets accompagnés par le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, ont été les finalistes du concours d'application Open Data autour du voyageur TER organisé par SNCF TER Languedoc. Le premier prix a été décerné à MyCast, une radio personnalisée pour accompagner les voyageurs dans leur trajet en train et profiter du temps à bord. Ce service, conçu par Mathieu Gabaudan et Thomas Fesque, sera déployé en expérimentation sur l'ensemble du réseau TER régional.
Quelques collectes solidaires les 9 avril à Pérols sur le parking des Arènes, le 23 avril au centre de Latte, place du Maréchal Juin, et le 7 mai toujours à Latte, Morin, cette fois-ci place du Mail. Les équipes de Montpellier Méditerranée Métropole et d'Emmaüs collecteront vos objets, informatique, mobilier, vêtements et jouets. Pour leur donner une seconde vie, vous pouvez vous renseigner en téléphonant et c'est gratuit au 0800 88 11 77.
Un aquagym géant, mardi 28 avril, l'équipe des maîtres nageurs de la piscine Pitot vous attendent nombreux et nombreux pour un aquagym géant de 18h15 à 19h15. La séance est gratuite, sous réserve de s'être acquitté bien sûr des droits d'entrée.
Régie publique de l'eau, ça avance. Prévue pour le 1er janvier 2016, la régie publique de l'eau se met peu à peu en place. Son directeur, Grégory Vallée, est en poste depuis le 1er mars. Elle sera officiellement créée lors du conseil du 28 avril sous la forme d'un établissement public à personnalité morale et financière sur le modèle de ce qui s'est fait à Paris et Grenoble. Ce statut prévoit la présence de représentants des usagers au conseil d'administration, même si les élus y restent majoritaires. Les investissements sur les réseaux, les tarifs de l'eau et la qualité de service seront fixés par une convention d'objectifs entre Montpellier Méditerranée Métropole et la régie. Vous pouvez d'ailleurs suivre les débats du comité citoyen de la régie sur notre site montpellier3m.fr.
Donnez votre avis sur la ligne nouvelle. La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan prévoit la création de 150 km de ligne entre le contournement Nîmes-Montpellier et la section internationale Perpignan-Figueras. Ce grand projet ferroviaire finalise ainsi la liaison entre l'Europe du Nord et du Sud. Complémentaire de la ligne existante, la ligne nouvelle, c'est plus de TGV, plus de trains régionaux, plus de trains de marchandises et un accès à la grande vitesse sur le réseau ferroviaire européen pour tous les habitants de la région. Une nouvelle phase de concertation est ouverte afin de définir précisément le tracé et d'optimiser le coût du projet. Venez donner votre avis, des registres sont à votre disposition du 13 avril au 13 mai dans les mairies de Latte, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-les-Maglones, Fabrègues et à la Métropole. Vous pouvez également participer mardi 14 avril, salle Fernand Pelloutier de Montpellier Méditerranée Métropole, à une des 10 réunions publiques organisées tout au long du tracé. Une décision ministérielle sera prise sur ce tracé avant la fin de l'année 2015. Retrouvez toutes les informations, posez vos questions sur lignenouvelle.com sur Internet.
Et puis 29, c'est le nombre de concerts gratuits décentralisés dans les communes de Montpellier Méditerranée Métropole à l'occasion de la 30e édition du festival Radio France et Montpellier Languedoc Croussillon. Du 9 au 25 juillet, près de 200 manifestations mettront à l'honneur la musique classique dans toute la région pendant cet événement soutenu à hauteur de 390 000 euros par la métropole. Retrouvez tout le programme complet sur festivalradiofrancemontpellier.com.
Les tweets à présent avec de l'art accessible. L'association Arte Rossa ouvre 14 rue Frédéric Bazille, derrière la gare, sa galerie d'œuvres d'art originales, produite en petite série numérotée.
Échec Club, l'équipe des Échecs Club Montpellier, qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de France le 5 avril et 12 jeunes pour les championnats de France. Vous pouvez en savoir plus en allant sur internet ecmche2s.fr.
Esbama, Julien Borel de l'Esbama, a été sélectionné parmi 60 jeunes artistes pour présenter son travail au Salon de Montrouge. Ce sera du 6 mai au 3 juin.
Jeux vidéo, après les Annie Awards à Hollywood, c'est la British Academy of Film and Television Arts qui a récompensé Soldat Inconnu d'Ubisoft Montpellier. Toutes les infos sur soldatinconnu.ubi.com.
French Tech, Montpellier accueillera le Tour de France Digital le 28 avril où 10 startups présenteront leurs projets pour une place en finale à Paris. Plus d'informations sur montpellier-frenchtech.com.
L'événement, c'est le Parlement des territoires Acte 1. 51 intercommunalités représentant 1200 maires de 6 départements ont répondu à l'appel de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier le 25 mars dernier, pour poser les bases du Parlement des territoires. Cette instance de dialogue vise à engager des stratégies de coopération pour le développement des territoires sans ajouter de strates administratives. À l'issue de cette première réunion, une déclaration commune nommée l'appel de Castries a été adoptée. À l'unanimité.
C'est dans la majestueuse salle des États du Languedoc du château de Castries que Philippe Sorel avait convié ses invités. Au XVIIIe siècle, les États du Languedoc représentaient les baronnies de l'actuel Languedoc, plus celles de Toulouse, d'Albi, du Velay et du Vivarais, moins les Pyrénées. Une référence symbolique pour ce Parlement des territoires du XXIe siècle, qui lui est issu de 6 départements, le Gard, l'Hérault, la Lozère, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron. En effet, 72 élus d'intercommunalités et de communes allant de la vallée du Rhône jusqu'au sommet pyrénéen, en passant par les hauts plateaux de l'Aubrac et les plages du littoral, ont répondu à l'appel. La grandeur de Montpellier, c'est de n'oublier ni les territoires ruraux, ni les territoires périurbains, ni les villes, a indiqué Philippe Sorel.
En toile de fond de cette première réunion, la réforme territoriale et la création d'une grande région regroupant Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. La grande région nous pousse au dialogue, a estimé François Comen, président de Tau Agglomération et sénateur maire de Sète, tout en rappelant qu'il ne s'agissait pas d'une strate administrative de plus. De son côté, le Pays de l'Or a salué l'esprit de libre consentement qui prévaut dans cette assemblée. Longtemps, Montpellier a fait peur et cette instance est faite pour nous rassurer, a estimé Stéphane Rossignol, président de l'agglomération du Pays de l'Or et maire de la Grande Motte.
C'est un moment important pour nous tous, a déclaré Louis Villaret, président de la communauté des communes Vallée de l'Hérault et maire du Pouget. L'argent public se faisant de plus en plus rare, il y a une efficacité à rechercher dans l'action publique, quelles que soient nos idées. Enthousiaste, Didier Codorniou, premier vice-président du Grand Narbonne et maire de Gruissant, a salué le visionnaire Philippe Sorel et sa volonté de faire converger les dynamiques économiques. Le Parlement des territoires propose aux intercommunalités de coopérer autour des 6 piliers de développement impulsés par Montpellier Méditerranée Métropole, la santé, le développement numérique, la mobilité et les déplacements, le développement économique et touristique, l'agroécologie-alimentation, le patrimoine, la culture et l'égalité des chances. Des problématiques communes dont la pertinence s'est confirmée, les territoires ruraux se montrant particulièrement intéressés par la lutte contre la fracture numérique et l'accès aux soins. Dépasser le clivage urbain-rural, c'est le souhait de Marie-Christine Bousquet, présidente de la communauté des communes du Lodévois et maire de Lodève, qui a apprécié de pouvoir réfléchir et travailler autrement. Avant de se quitter, les élus ont adopté une déclaration commune, l'appel de Castries, qui les engage dans une démarche solidaire et audacieuse de coopération territoriale. Elle prévoit aussi que l'Assemblée fonctionne selon le principe « une intercommunalité égale une voix ». Le Parlement des territoires se réunira au moins une fois par an et sera équipé d'une plateforme numérique d'échange. Ses premiers travaux viseront à élaborer une charte fondatrice concertée.
Plusieurs photos illustrent cette double page. Réunis dans la salle historique des États du Languedoc au château de Castries, plus de 70 élus représentant donc 51 intercommunalités ont répondu à l'invitation de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier. On les aperçoit également prenant la pause devant l'entrée du château. Et un autre cliché nous montre une vue imprenable sur les jardins du château de Castries.
Un extrait tout de suite de ce fameux appel de Castries, paru le 25 mars 2015.
Nous, élus locaux représentant la République des territoires, réunis à Castries le 25 mars 2015 pour la première session du Parlement des territoires, affirmons au travers de la présente déclaration notre volonté d'engager une démarche solidaire et audacieuse de coopération territoriale. Cet engagement qui nous rassemble repose sur 6 piliers de développement qui transcendent nos territoires, la santé, le développement numérique, la mobilité et les déplacements, le développement économique et touristique, l'agroécologie-alimentation, le patrimoine, la culture et l'égalité des chances. Notre ambition commune s'articule autour de 3 convictions. Nous voulons construire ensemble une réponse innovante aux défis de la réforme territoriale. Nous sommes déterminés à dépasser la rigidité des périmètres administratifs pour œuvrer à de nouvelles échelles de complémentarité et de solidarité. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons plus forts.
Plus d'infos sur montpellier3m.fr/parlement-des-territoires. Les pages décisions de votre magazine, retour sur le Conseil de Métropole qui s'est déroulé le jeudi 5 mars 2015. Le décryptage tout de suite par Max Levita, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué aux finances.
Il s'agit du premier budget élaboré sous la présidence de Philippe Sorel. Au préalable, nous avons commandé un audit financier sur la période 2008-2014 au cabinet FCL. Celui-ci conclut que la situation, sans être catastrophique, est préoccupante. Nous devons prioriser les actions et optimiser les coûts du service public. Dans ce budget, nous avons donc dû optimiser le financement de notre capacité d'action tout en maintenant des grands projets structurants qui permettent de soutenir l'économie locale. Nous sommes dans une situation inédite qui nous oblige à adopter de nouveaux comportements. La baisse des dotations de l'État liées aux objectifs nationaux de maîtrise des dépenses publiques sera plus de 150 millions d'euros sur la période 2015-2020. Par ailleurs, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux d'imposition qui pèsent sur les entreprises et sur les ménages. On ne peut pas continuer à augmenter la fiscalité en pariant sur l'inflation puisqu'il n'y a plus d'inflation. Dès notre arrivée aux affaires, l'an passé, nous avons reporté des investissements qui n'étaient pas financés, comme la couverture du stade de la Mosson pour 56 millions d'euros ou la ligne 5 du tramway pour 400 millions d'euros. Nous avons renégocié le contrat avec l'exploitant de l'unité de méthanisation et revu les tarifs des piscines et des musées, baissé le budget communication et les indemnités des vice-présidents et nous mutualisons certaines fonctions avec la ville de Montpellier. L'objectif est bien de faire mieux avec moins, tout en préservant les investissements pour préparer l'avenir.
Plus d'informations sur montpellier3m.fr/budget-et-fiscalité. Notez que le prochain Conseil de Métropole aura lieu le 28 avril à 18h.
Un budget maîtrisé et équilibré d'un montant de 747 millions d'euros. Dans le détail, 183 millions d'euros sont prévus au titre des grandes dépenses d'équipement hors compétences nouvelles. 7,8 millions d'euros pour le sport, soit 2 millions pour la rénovation et l'amélioration des piscines, 1 100 000 euros pour la rénovation du stade Yves du Manoir et 1,4 million pour la pelouse du stade de la Mosson Mondiale 98.
12 millions pour l'environnement et la gestion des déchets, soit 4,5 pour l'amélioration de la qualité des matériels et équipements nécessaires à la collecte et au tri des déchets des usagers. 2 millions d'euros seront consacrés à la poursuite de l'aménagement du casier numéro 2 de Castries. 14,2 millions pour la culture, dont 4 pour le futur centre d'art contemporain. 40,7 millions d'euros budgétés pour l'eau, l'assainissement, la prévention des inondations, dont 10 millions pour l'eau potable.
44 millions d'euros de dépenses prévues au titre de l'action économique, aménagement des territoires et de l'habitat. Ils se répartissent de la façon suivante. 7,4 millions d'euros pour l'action foncière sur les sites stratégiques à vocation communautaire. 4,1 millions d'euros pour l'action foncière pour le développement économique. 3 millions d'euros pour le renouvellement urbain Aude à la mer. 2,6 millions d'euros pour la requalification de la zone industrielle du Salaison. 1 million d'euros pour financer des actions en direction des entreprises innovantes via le BIC. 1,6 million pour le SDAN. Enfin, 11 millions d'euros d'aide au secteur locatif.
Et puis 64 millions d'euros sont consacrés au transport, dont 31 millions pour le bouclage de la ligne 4 du tramway et 16 millions pour le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Un chiffre 0%. Pour 2015, Montpellier-Méditerranée Métropole fait partie des métropoles qui n'augmentent pas les impôts.
Fenêtre ouverte sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole. À Clapiers, prenez de la hauteur avec Formadrone. Baptiste Simoneau, un jeune entrepreneur clapierrois, lancé fin 2015 Formadrone, une école de pilotage de drones formant des professionnels à ces engins de plus en plus utilisés. Afin de faciliter son implantation à Clapiers, l'entreprise a conclu un partenariat avec la municipalité. Au-delà de l'aspect ludique, piloter un drone n'est pas donné à tout le monde. Découverte.
À l'approche du stade Helios Guerrero de Clapiers, les bourdonnements caractéristiques des drones se font entendre. Sur place, l'entreprise Formadrone forme ses élèves à l'art du pilotage de ces objets volants pouvant s'élever à plus de 50 mètres du sol. Je souhaite m'assurer un complément d'activité à côté de mon métier en proposant des prises de vue de biens à des cabinets d'experts et d'assurance, indique un des apprentis pilotes, Michel Verdu, artisan maçon à Servient dans l'Hérault. La formation comprend un premier volet théorique de 5 jours et un second volet axé sur la pratique d'une dizaine de jours. C'est une activité accessible à toute personne de plus de 16 ans qui demande de l'investissement, de la rigueur et une certaine dextérité, explique Baptiste Simoneau, fondateur et dirigeant de ce centre de formation.
Après une rencontre avec Eric Penceau, maire de Clapiers, j'ai accepté sa proposition de partenariat avec la commune. Cette opportunité m'a permis de lancer mon activité plus rapidement, détaille-t-il. La municipalité loue ainsi à l'entreprise un des terrains du stade municipal et une salle adjacente. En contrepartie, Formadrone s'engage à assurer la couverture aérienne par photographie ou vidéo de manifestations culturelles et sportives locales. La société clapierroise organise également des séances de prévention auprès des collégiens de la commune sur l'utilisation des drones et d'autres objets volants, car ces engins se pilotent en respectant toutes les conditions de sécurité et en obtenant les autorisations et les brevets nécessaires, rappelle l'entrepreneur passionné par l'aéronautique et ancien salarié d'Airbus.
Ils sont de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs et leur prix oscille entre 2000 et 30 000 euros. Les drones autrefois réservés à des activités militaires font aujourd'hui le bonheur des grands-enfants, mais aussi des professionnels de la télévision, du cinéma, des services de secours, de l'agriculture par exemple. Chez Formadrone, nous accueillons des élèves venant d'horizons très différents. Un photographe souhaitant faire des prises de vue aériennes, un salarié du BTP pour suivre l'avancée de ses chantiers, un expert agricole souhaitant mieux mesurer l'impact des sinistres qu'il inspecte et même des personnes en reconversion professionnelle, précise Baptiste Simoneau. En l'espace de 3 ans, le nombre d'écoles de télépilotes professionnels en France est passé de 60 à plus de 1300. Une croissance exponentielle du secteur permettant à l'entreprise clapiroise, en passe de recruter son premier salarié, de prendre un peu plus son envol. Toutes les infos sur format-drone.com sur Internet.
Et on aperçoit sur cette page Baptiste Simoneau qui donne les derniers conseils à son élève qui achève sa formation. À la Vérune, les Beaux-Arts en résidence. Après une première résidence à Saint-André-Zéry et plusieurs séances de travail dans les communes de la métropole, 7 étudiants de deuxième année de l'école supérieure des Beaux-Arts de la métropole seront en résidence à la Vérune du 27 avril au 15 mai. Objectif, sortir des murs de l'école pour alimenter leur réflexion artistique. C'est aussi l'opportunité pour ces jeunes artistes d'aller au contact du public, d'échanger sur leur travail avec les habitants et de mettre leur savoir-faire à l'épreuve, explique Christian Gossen, directeur artistique artistique de l'École des Beaux-Arts. En parallèle, cette collaboration avec la municipalité où se déroulera aussi au musée Hofer-Bury où une trentaine d'œuvres déjà réalisées par d'autres étudiants seront exposées. Plus d'infos sur sbama.fr ou sur laverune.fr.
À Cournanterral, en route pour la nuit des Cévennes. Des centaines de curieux ou d'amateurs admirent chaque année les voitures de collection alignées sous les platanes de l'esplanade avant le départ pour la nuit des Cévennes, organisée depuis 12 ans par Retro Rally 34. Samedi 18 avril, à partir de 14h, R8 Gordini, Sim Camille, Rally 2, Alfa Romeo, Porsche ou encore Volvo de 1966, une des plus anciennes exposées, sont au rendez-vous de ce moment convivial où tout un chacun peut échanger avec les propriétaires de ces véhicules de collection. À 17h30, les moteurs commencent à gronder, roadbook en main, conducteur et copilote prennent le départ pour une promenade touristique nocturne de 300 km sur les traces du Critérium des Cévennes. Loin de tout esprit de compétition, les participants partagent le plaisir de faire rouler leurs petits bijoux à quatre roues. Retour prévu à minuit pour les remises de récompenses sur tirage au sort. Toutes les informations sont sur retrorally34.fr sur Internet.
Parole de maire, Isabelle Touzard, maire de Murviel-les-Montpellier, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, un marché dominical en circuit court. Chaque dimanche matin, la commune de Murviel-les-Montpellier accueille depuis le 15 mars un marché de producteurs. Installé en plein cœur du village, une dizaine d'exposants proposent des produits issus de circuits courts.
La création de notre marché dominical est une grande avancée pour la commune. Jusqu'alors, les Murviellois n'avaient pas d'autre choix que de se déplacer auprès des producteurs environnants pour s'approvisionner. Aujourd'hui, ils ont chaque semaine une grande diversité de produits à portée de main. Soucieux de privilégier une demande de circuit court, nous avons sélectionné une quinzaine de producteurs locaux, maraîchers, fromagers, bouchers, charcutiers, poissons, apiculteurs, etc. Et puis des exposants avec un seul intermédiaire. Nous nous sommes particulièrement inspirés du marché paysan de Grabelle, exemplaire en la matière. Notre nouveau marché est également un moyen de créer davantage de convivialité. Il constitue un nouveau lieu de rencontre au centre du village, à proximité des autres commerces. Et loin de concurrencer les commerçants de la commune, les produits proposés sur le marché complètent l'offre existante. Je donne rendez-vous chaque dimanche matin dans la rue des Platanes à tous ceux désireux de découvrir le nouveau marché de Murviel-les-Montpellier et de s'approvisionner en produits locaux.
À Sussargues, le collectif Random est de retour. En 2013, Sussargues s'est transformé en laboratoire à ciel ouvert où habitants, artistes et élus avaient réinventé leur rapport à l'espace public. Un projet artistique élaboré avec la municipalité, l'association Probable Inflation du Bonheur, l'Atlin et le collectif Random. Du 26 avril au 2 mai, ces artistes sont de retour dans les rues de Sussargues pour travailler leur nouvelle création intitulée Out. Ils mettront en scène la relation entre le dedans et le dehors de chaque citoyen, sa capacité à sortir de chez lui et de lui pour accueillir le dehors de l'autre. Présentation publique d'une étape de travail samedi 2 mai à 18h. Vous en saurez plus en allant sur facebook.com/ateline.cia ou encore sur le site de la commune sussargues.fr.
À Jacou, un débat autour de la laïcité. C'est quoi la laïcité? Comment permet-elle le vivre ensemble? Comment la vivre aujourd'hui? Vendredi 10 avril à 18h30 à la Fabrique, la Maison des Jeunes et de la Culture Bobby Lapointe organise une table ronde sur cette question d'actualité. Trois spécialistes interviendront, Nicolas Cadenne, délégué général à l'Observatoire de la laïcité, Michel Miaille, professeur de droit et de sciences politiques de l'Université Montpellier 1, et Pierre-Alain Guyot, chercheur en sciences de l'éducation à l'IRTS. Un moment d'échange et de citoyenneté pour construire une société plus juste et plus solidaire. L'entrée est libre. Vous pouvez vous renseigner par téléphone au 04 67 59 17 13.
Ocres, Régallergie régale les allergiques. Ce site web marchand permet aux personnes qui ont des allergies alimentaires multiples de trouver des produits adaptés. Il a été conçu par une maman concernée. Ce site sera présent au Salon des allergies alimentaires et des produits sans Ocorum, qui est une première en France.
Corentin était âgé de 2 mois à peine lorsque ses parents ont vite compris qu'il ne pouvait pas manger de tout. Au lait de vache, il réagissait par de l'eczéma et un peu plus tard au blé par des vomissements. À 14 mois, après des tests médicaux, le blé, les œufs, l'arachide, les noisettes et par extension tous les fruits à coque lui sont interdits sous peine de problèmes de santé pouvant aller jusqu'à l'œdème. Au départ, en tant que parent, on est désemparé. J'ai 2 enfants et pour l'aîné, il n'y a jamais eu de souci alimentaire. Il faut éplucher toutes les étiquettes des produits, être très vigilant, trouver des produits spéciaux. C'est pas toujours évident quand il faut faire face à plusieurs allergies, concède Ariane Valpen, la maman de Corentin, une néo-cressoise d'origine poitevine installée dans le quartier Montmarin.
Aujourd'hui âgé de 6 ans et demi et après un PAI, protocole d'accueil individualisé, Corentin ne part jamais à l'école sans son panier repas et son goûter. La trousse d'urgence n'est jamais bien loin. Si elle a repris une activité professionnelle à mi-temps, après son congé parental, Ariane Walpen a aussi donné naissance à un site internet marchand, Régallergie. Sous-entendu, les personnes allergiques peuvent elles aussi se régaler. Il a été mis en ligne en novembre 2014. J'ai eu l'idée il y a un an et j'ai travaillé à la recherche des produits. Pas facile de dénicher des chocolats à Pâques. Il y a 20 marques, une provient même d'Australie et 140 références. Mon souhait est avant tout de faciliter le quotidien des parents, assure-t-elle. Pour Régallergie, les premiers retours sont plutôt bons. J'ai des clients de la France entière, j'expédie les colis, même si des clients viennent aussi les chercher à la maison. Je n'ai pas assez de recul pour envisager le futur de mon activité. Nous sommes encore loin de penser à une boutique, confie la maman de Corentin. Régallergie veut se faire connaître et participera donc au salon des allergies alimentaires et des produits sans, entre guillemets. Nous aurons un stand et on sera le sponsor de la zone enfant. Toutes les infos sur le site régallergie.fr.
Le salon des allergies alimentaires au Corum. Le salon des allergies alimentaires et des produits sans aura lieu les 18 et 19 avril, samedi et dimanche, de 10h à 19h au Corum. Qu'elle soit intolérante ou allergique, ce rendez-vous s'adresse aux personnes à qui le gluten, l'arachide, le soja ou d'autres allergènes mènent la vie dure et pour lesquels les repas quotidiens tiennent parfois du casse-tête. Plus généralement, le salon concerne également celles et ceux qui, pour des raisons de santé ou convenance personnelle, ont adopté un régime strict sans sel, sucre ou produits laitiers ou suivent une alimentation végane par conviction éthique. Idéal également pour goûter de nouveaux produits, apprendre les recettes sans de grands chefs cuisiniers ou assister à des conférences d'experts médicaux et d'auteurs passionnés. Les tarifs, en ligne, vous payerez 5€ pour entrer sur ce salon. Sur place, ce sera 7€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. 1€ par ticket vendu sera reversé à la recherche contre les maladies alimentaires. Pour en savoir plus, le salon des allergies alimentaires.fr.
Le samedi 25 avril, Grabel devient la capitale française du ukulélé en accueillant la seconde édition du festival ukulélé dans la cour des anciennes écoles. De nombreux événements viendront rythmer l'après-midi avec des initiations à ce petit instrument. Des peintres assureront des performances en direct ainsi que des sculpteurs et des luthiers. Ola Ketal Ukulele, une formation locale de blues composée de 11 musiciens de Grabel et Montpellier, se produira avant de laisser la scène ouverte à des groupes amateurs locaux. À partir de 18h30, les groupes invités, partageant eux aussi une passion pour le ukulélé, se succéderont sur scène. Parmi eux, le duo féminin Les Cigales, de Ukulele Preachers et leurs mélodies des années 20, Royal Boudoir Orchestra avec ses reprises de standards de jazz et des années 60, ainsi que Joda Robert. Rendez-vous donc à Grabel pour faire le plein de sonorités exotiques et découvrir ce petit instrument à cordes pincées apparu à la fin du 19e siècle, proche de la forme d'une guitare et adopté par de nombreux genres musicaux. Plus d'infos par téléphone 09 61 31 43 18. Les tarifs pour ce festival de 3 à 5 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et toutes les infos sur le site internet olaketayukulele.com.
À Montaut, un marché éco-citoyen. La 6e édition du marché des Garrigues, organisée par l'association du foyer rural, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, se tiendra dimanche 26 avril de 9h à 17h. Cette journée festive est avant tout un lieu de rapport direct entre le producteur et le consommateur. Une trentaine de producteurs sera donc mobilisée pour défendre la qualité, l'origine locale, la fraîcheur et l'authenticité des produits du terroir. Certains exposants proposeront également leurs produits prêts à consommer pour déjeuner sur place, dans un cadre campagnard et animé toute la journée. Les renseignements sur internet, eh bien vous tapez village-montaut.com.
À chacun son parcours à Jacou. Créé en 1993, le Mountain Bike of Jacou rassemble une trentaine de vététistes. Les plus sportifs se donnent rendez-vous chaque dimanche matin pour des sorties dans les environs. Le club propose également des week-ends ludiques en famille, participe à des randonnées régionales et des événements nationaux. Mais le rendez-vous de l'année qui mobilise tous les membres du club est la randonnée de la mer qu'ils organisent depuis 14 ans dans les bois de Jacou. Dimanche 12 avril, un millier de vététistes prendra le départ au parc Boco d'un des quatre parcours concoctés, 15, 25, 30 et 42 km à partir de 7h30. De nouveaux challenges adaptés à chaque profil de vététiste. Tarif 9€, 1€ pour les moins de 12 ans. Et toutes les infos sur vtt-jacou34.net.
À Castries, de nouveaux logements et équipements sociaux. 5000 logements neufs, dont 30% de logements sociaux, sont prévus par an sur le territoire dans le programme local de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole. La résidence Lescoud, inaugurée le 7 mars dans le nouveau quartier des Pins, s'inscrit dans cet objectif de mixité sociale. Ces 11 logements collectifs ACM ont été conçus par l'architecte Daniel Delgado dans le respect de la nature environnante où subsistent des traces des anciennes carrières. Pour faire face à la croissance démographique de la commune, le 19 mars, Castries a également posé la première pierre de son futur centre médical, Castrimed, une opération inscrite dans la ZAC via Domicia. Les renseignements sur castries.fr sur internet.
À Castelnau-le-Lay, les héros de badminton. 400 matchs, 300 compétiteurs, 22 heures de match, 12 terrains. Les 25 et 26 avril, le 7e tour des héros s'annonce intense au Palais des Sports Chamond-Delmas, organisé par l'association Badinley qui va bientôt souffler sa 20e bougie. Ce tournoi de badminton est l'événement le plus important de la saison au Languedoc-Roussillon. Le Palais des Sports est un terrain de jeu idéal pour ce type de compétition qui permet d'allier haut niveau, confort et qualité de jeu. Des joueurs handibat participeront également à cet événement sportif, donc à partir de 9h les 25 et 26 avril. Toutes les infos sur abil-badminton.fr.
Les 25 et 26 avril, c'est le week-end à ne pas manquer à Saint-Georges-d'Orque. Chaque année, le saint patron de la commune est dignement fêté. Trois manifestations locales sont regroupées pendant ces deux jours. Les Livres d'Orque, la journée du livre de Saint-Georges, qui réunit une vingtaine d'auteurs régionaux. Ce sera samedi de 10h à 17h, salle TH Jefferson. La journée Street Art, avec la réalisation d'œuvres sur les murs des anciennes écoles, par trois artistes dont Small, de la galerie At Down de Montpellier, samedi de 11h à 17h. Et puis l'installation de sculptures signées Fredisch sur le parvis de la mairie. Et enfin, la fête de la Saint-Jordi, concoctée par la municipalité et le syndicat du terroir Saint-Georges d'Orque. La statue de ce dernier, pourfendeur de dragons aux multiples légendes, sera portée de la cave coopérative à l'église, dimanche à 10h30. Cette procession, accompagnée par les confréries des barons de Caravette et des crues Saint-Georges, précède la messe en occitan du père Jean Roquette. Son office sera mis en voie par la Nadalenka et la chorale d'Aïssi. Vin d'honneur et repas vignerons clôtureront cette riche journée dominicale, ouverte dès 9h à la cave coopérative, par un nouveau salon mettant à l'honneur les nombreux artisans créateurs de la commune. Quel week-end! Pour tout savoir, vous tapez ville-saint-georges-dorque.fr sur internet.
Promenade, Fabregue soigne sa nature. Au pied du massif de la Gardiole, sur un couloir de communication fréquenté à travers les âges, Fabregue revendique son caractère rural et ses espaces naturels et ne manque pas d'atouts.
Née de la fusion de quatre paroisses, Fabricae, Forge en latin, profite d'une histoire riche qui a laissé des traces comme l'oppidum pré-romain de La Roque ou l'église Saint-Jacques, protégée au titre des monuments historiques. Le cœur de ville est marqué par sa construction médiévale en circulade, typique de certains villages languedociens, particulièrement visible en prenant un petit peu de hauteur. Ce patrimoine historique bâti s'inscrit aujourd'hui dans le quotidien des Fabrégois, mais ces dernières années, c'est le patrimoine naturel qui retient plus spécialement l'attention de la municipalité et des habitants. Située sur un axe de communication privilégié, Fabregue est entourée d'espaces naturels qu'elle s'applique à préserver et à valoriser. Ainsi, dans les années 90, le Coulazou a fait l'objet de travaux de calibrage qui ont permis d'aménager ses rives en lieu de promenade et de détente. C'est le long de cette rivière, véritable épine dorsale de la commune, qu'ont été construits la plupart des équipements sportifs. Au sud-ouest, la plaine étendue jusqu'à Poussan est une zone Natura 2000, particulièrement riche en espèces d'oiseaux, telles que la pigrièche à poitrine rose, le rollier d'Europe ou l'outard de Canepetière, un site protégé encore méconnu.
Au sud, le massif de la Gardiole et ses 4200 hectares de garrigues s'étendent sur 15 km entre la plaine et les étangs, en zone protégée. Ce massif calcaire aux roches claires est couvert de chênes verts, cistes, pins, cyprès, cèdres, une végétation méditerranéenne que l'on peut apprécier en empruntant le sentier qui mène à l'ermitage Saint-Baudile. 13 km de balade au cœur de paysages magnifiques, lieu de pèlerinage marqué par un chemin de croix prenant fin à la chapelle bâtie au XIe siècle. Du sommet, on découvre un superbe point de vue à 360 degrés du pic Saint-Loup à la Méditerranée. Autre perle préservée de Fabregue, le domaine de Mirabeau, racheté par la commune en 2013. Au pied de la Gardiole, 185 hectares de bois, de vignes et d'oliviers reprennent vie. De nouvelles plantations et du maraîchage sont en projet. Après le jus de raisin et l'huile d'olive offert aux enfants des cantines scolaires, les premières cuvées de Saint-Zot et de Merlot sont attendues pour le mois de mai. Toutes les infos sur fabregue.fr, la commune compte 6000 257 habitants. Sur cette double page, on aperçoit une vue du centre de Fabrègues et de sa circulade du haut du massif de la Gardiole. On aperçoit également le 13 septembre dernier des Fabrégois de tous âges qui ont participé à la première journée de vendange à l'ancienne au domaine de Mirabeau. Un nouveau rendez-vous annuel à inscrire au riche calendrier d'animation de la commune.
Tout de suite, un entretien avec le maire de Fabrègues, Jacques Martinier. Monsieur le maire, comment définissez-vous votre commune ?
Aux portes de Montpellier, Fabrègues est le trait d'union entre Montpellier Méditerranée Métropole et Thau Agglo. Nous mettons tout en œuvre pour conserver le caractère rural de notre commune qui bénéficie d'espaces naturels exceptionnels. Fabrègues a également la chance d'être animée par une centaine d'associations qui jouent les premiers rôles dans la préservation de cet esprit village.
Quels sont vos projets ?
Côté construction, une troisième zone d'activité est en cours à l'entrée est de la commune, ainsi qu'un parc d'environ 200 logements face au collège. Après avoir doté la commune de tous les équipements publics nécessaires, nous allons prévoir l'extension de la mairie. Nous créerons également un nouveau parking de 50 places près de l'école de la Formigueta.
Et quels sont vos projets phares ?
Parmi les rendez-vous phares, on peut citer la fête votive en juillet, la nouvelle journée de vendange à l'ancienne et le festival international de BD en septembre, mais aussi le festival de théâtre en mars, le festival de la culture japonaise Japanson et le festival de tango au mois de mai. Au musée Fabre, l'art à ses mécènes. La fondation d'entreprise du musée Fabre rassemble une vingtaine de sociétés. Les salles d'exposition temporaires ont pris le nom de Gérard Maurice, son président fondateur, disparu l'an dernier.
Au musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, pour la première fois depuis sa réouverture en 2007, les salles d'exposition temporaires sont vides et d'une blancheur immaculée. Les cloisons ont été retirées avant réfection et au sol, le plateau de 900 mètres carrés a été changé. Un toilettage qui préfigure l'exposition événement qui sera visible dès le 20 juin et consacré à l'âge d'or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano. Pour autant, cet espace privilégié à l'intérieur du musée a désormais un nom. Ce sont les salles Gérard Maurice. Le baptême a eu lieu le 24 février lors d'un dévoilement de plaques à la mémoire du défunt président de la fondation d'entreprise du musée Fabre, qui a donc présidé de 2007 à 2014, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de sociétés.
Si la métropole impulse une politique culturelle, elle ne peut agir seule lorsqu'il faut se positionner sur le marché de l'art afin de réaliser des acquisitions pour compléter l'existant. À chaque fois que j'ai alerté Gérard Maurice et les acteurs économiques qu'il avait su fédérer autour de lui, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait preuve de réactivité pour enrichir nos collections, témoigne Michel Hilaire, le directeur du musée Fabre. C'est aujourd'hui Max Ponseiller, le président du groupe OC Santé, qui a pris la succession de Gérard Maurice. 25 œuvres ont été achetées grâce au mécénat, dont le polyptyque à l'acrylique sur toile de Pierre Soulages ou encore le martyr de Sainte-Agathe d'Andrea Vaccaro, un des peintres de l'école napolitaine qui sera exposé cet été au musée Fabre. Le mécénat est inscrit dans l'histoire même du musée depuis son origine à travers la personnalité de son fondateur, François-Xavier Fabre. Plus près de nous, Pierre Soulages a poursuivi cette tradition. Les acteurs économiques du territoire prennent aujourd'hui toute leur part dans le rayonnement de cet établissement culturel métropolitain, note Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à la culture. Gérard Maurice n'est plus là, mais l'action exemplaire qu'il a initiée va continuer avec d'autres.
Retrouvez cette inauguration et les 22 sociétés qui font partie de la fondation d'entreprise du musée sur montpellier3m.fr ou bien sur museefabre.montpellier3m.fr. Du sport, 9 arènes pour un trophée. À partir du 1er mai, le trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole promet du grand spectacle dans 9 arènes du territoire. Rasteurs professionnels et taureaux des meilleures manades camarguaises feront monter l'ambiance en piste.
Capellado, cocarde, tourneur, crochet, un vocabulaire d'aficionados méconnu par la plupart des habitants du territoire. Pour y remédier, Jean-Luc Messonnier, ancien rasteur, lançait il y a 6 ans la fête du taureau dans sa commune de Bayargues, en partenariat avec l'agglomération. Lors de cette journée programmée le 5 juin, le public néophyte possède les clés pour mieux comprendre le rituel des courses camarguaises. Ce spectacle sportif est régi par des règlements et une éthique indispensable à la bonne tenue du face-à-face entre le rasteur et le taureau. Rendre plus accessible cette tradition bien vivante et lui redonner ses lettres de noblesse, c'est l'objectif du nouveau trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole créé cette saison.
De Saint-Geniès-des-Mourgues à Vendargues, 9 courses dans 9 arènes sont programmées de mai à novembre. Ce trophée s'inscrit dans le calendrier annuel des championnats de l'avenir et des As de la Fédération française de course camarguaise. Des règles communes et un jury composé de grands noms de la Bouvine conduiront ces courses organisées par les clubs taurins des communes avec le soutien de la métropole. En plus des points habituels octroyés par le président de la course, nous attribuerons des points de bonification en fonction de la qualité du raset, du geste du rasteur, précise le pérolien Jackie Siméon, ancien rasteur émérite. Nous tenons à récompenser la manière plus que l'efficacité pour remettre le taureau en vedette comme il se doit. Arlésienne, peignasse, chevaux, tout le folklore camarguais sera également au rendez-vous pour faire vivre au public un beau spectacle sur la piste.
Nous souhaitons faire revenir du public dans les arènes, des jeunes, des familles, des nouveaux arrivants à qui il faut donner envie de s'approprier cette culture, d'en parler autour d'eux. Ils sont nos nouveaux ambassadeurs, explique Jean-Luc Messonnier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, chargé des sports et des traditions sportives. Notre métropole est faite d'un équilibre entre l'urbain et le rural. Il est essentiel de maintenir sur notre territoire ce patrimoine culturel et sportif unique au monde. Ce nouveau trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole promet de belles actions, de l'engagement de part et d'autre. Les notes de Carmen n'ont pas fini de retentir dans les arènes de la métropole.
Quelques dates à retenir, donc le calendrier de ces manifestations. Le 1er mai, ce sera à Saint-Geniès-des-Mourgues.
Le 16 mai à Castries.
Le 30 mai à Bayargues.
Le 13 juin à Villeneuve-les-Maglones.
Le 14 juillet à Pérols.
Le 18 août au Cresse.
Le 22 août à Latte.
Le 29 août à Saint-Georges-d'Orque.
Et le 7 novembre à Vendargues. Et les tarifs seront réduits avec les cartes Passe Aglo ou Passe Métropole.
Et vous pouvez en savoir plus en allant sur internet ffcc.info ou alors sur montpellier3m.fr.
Transport, l'accessibilité, une nécessaire solidarité. 10 ans après la loi du 11 février 2005, 100% des tramways et bus de la métropole sont accessibles. Un travail partenarial efficace mené avec les associations de personnes handicapées. La collectivité poursuit son engagement en aménageant au fur et à mesure les arrêts de bus sur tout le territoire.
Depuis la mise en service de la ligne 1 de tramway, Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique de mise en accessibilité de l'ensemble de son réseau de transport en commun. Un travail de fond et de longue haleine réalisé en partenariat avec le comité de liaison et de coordination des personnes handicapées. Nous apportons nos savoir-faire et étudions plan par plan les lignes de tramway ou bus à aménager avec la TAM et la métropole afin que tous les handicaps soient pris en compte. Depuis des années, cette coopération a démontré son efficacité sur le terrain, témoigne Gilles Grange, administrateur de ce comité présidé par Jocelyne Roche qui regroupe une soixantaine d'associations représentant tous les types de handicaps. Ces aménagements mis en place pour circuler librement en toute autonomie sur le territoire bénéficient à l'ensemble des habitants, personnes âgées, accidentées, parents avec une poussette, femmes enceintes ou encore touristes.
10 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la métropole continue à se mobiliser pour permettre à chacun de se déplacer et faire ainsi le lien entre tous nos concitoyens. Plus qu'une obligation, c'est une question de nécessité, explique Isabelle Dianel, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au transport. Le schéma directeur d'accessibilité, approuvé en 2009, a notamment permis d'équiper tous les bus urbains de planchers bas avec palettes rétractables, d'informations sonores et visuelles embarquées. Même avancée pour le réseau de tramway, un moyen de transport 100% accessible perfectionné à chaque mise en service de nouvelles lignes. Côté aménagement de voirie, 75% des arrêts de bus urbains et 38% des arrêts suburbains ont aujourd'hui été rendus accessibles.
Cette année, des travaux sont programmés sur les lignes 9, Apollo-Gramont, 10, Aiglong-Selle-Neuve, ligne 25, Mosson-Juvignac, 29, Castelnau-Saint-Brest, 32, Garcia-Lorca-Villeneuve-les-Maglones et 37, Place de l'Europe, Castelnau-Lollet. Au total, 8,5 millions d'euros ont ainsi été investis pour l'accessibilité des transports au cours de ces 5 dernières années. Tout n'est pas achevé, précise Régine Hiller, vice-présidente déléguée à l'accessibilité, maire de Cournon-Sec. En conformité avec l'ordonnance du 26 septembre 2014, nous allons élaborer notre agenda d'accessibilité programmé pour réaliser d'ici 2018 les aménagements urbains manquants. Numérique, la French Tech dévoile sa stratégie. 5 mois après avoir obtenu le label French Tech, Montpellier Méditerranée Métropole et la communauté montpelliéraine du numérique et de l'innovation poursuivent leur travail pour structurer et accompagner l'écosystème local. Réunis au sein du conseil French Tech créé en janvier, ils ont élaboré un plan d'action pour accompagner et amplifier l'essor de la filière.
Le 12 novembre dernier, une centaine de chefs d'entreprise du numérique étaient réunis au siège de la métropole pour l'annonce de la labellisation French Tech du territoire. À cette occasion, Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, s'est engagé à construire avec eux une stratégie commune afin de leur permettre de se développer et d'accéder à de nouveaux marchés à l'international. Dès janvier, le Conseil French Tech a été créé à l'initiative de la Métropole, une institution rassemblant tous les secteurs de la filière, entreprises, start-up, PME, grands comptes, les financeurs, BPI, Caisse des dépôts, Soridec, Sophie Larreau, des organismes de formation et d'accompagnement, l'Université de Montpellier bien sûr, Epitech, Business and Innovation Center, et des instances publiques, directes, Région Languedoc-Roussillon, Montpellier Méditerranée Métropole, chargées de définir, concevoir et mettre en place un plan d'action.
Ces derniers mois, les 7 groupes de travail du Conseil French Tech ont planché pour élaborer un plan d'action. Pour Pierre Billet, délégué au développement régional du groupe La Poste, l'enjeu est de montrer que l'on est capable de faire ce que l'on a dit lors de notre candidature à la French Tech. Pour conserver et renforcer cette dynamique d'acteurs, cela passe notamment par plus d'interactions entre les grands groupes et les startups locales. De son côté, Pierre Alzingre, fondateur de Visionary, une agence de conseil en marketing, insiste sur l'idée que nous devons rechercher les meilleures solutions pour identifier, attirer et garder les talents sur notre territoire. Il faut aussi faire rayonner cet esprit French Tech en y intégrant le grand public. De nombreuses initiatives au programme avec un seul objectif en ligne de mire, faire grandir le secteur local du numérique.
Quelques-uns des objectifs de la French Tech Montpellier-Rennes en 2015. Identifier tout d'abord les startups locales pouvant bénéficier du Pass French Tech. La métropole a été désignée comme opérateur régional du Pass French. Destiné aux entreprises en très forte croissance, ce dispositif leur offre un accès prioritaire et simplifié à des services d'accompagnement.
Autre objectif, organiser plusieurs rencontres en mai-juin entre les grands groupes et des startups où ces dernières apportent des solutions aux problèmes d'innovation technologique des premières. Créer un événement grand public en juin à Montpellier, la route de l'entreprise pour développer la culture de l'entrepreneuriat. Enfin, faire du DigiWorld Summit du 17 au 19 novembre, un événement international phare.
Retrouvez le contenu complet du plan d'action de la French Tech pour 2015 sur montpellier-frenchtech.com.
Santé, ils sont de retour. Depuis quelques années, le moustique tigre a élu domicile sur le territoire de la métropole et sa population continue de croître aux côtés de ses autres congénères, cependant moins redoutables. Le tigre est un insecte nuisible, transmetteur potentiel de maladies, colonisant les zones habitées et contre lequel il n'existe pas de remède miracle, hormis une mobilisation humaine pour limiter sa prolifération. À partir d'avril, il reprend du service. Une piqûre de rappel s'impose.
L'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, est un insecte extrêmement invasif, originaire des forêts humides d'Asie du Sud-Est, qui a colonisé tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Sa présence dans l'Hérault a été détectée en 2009, puis 2 ans plus tard à Montpellier et dans la métropole.
Contrairement aux moustiques vivant principalement dans les zones humides littorales, le moustique tigre évolue en milieu urbain et au contact de l'homme qui lui offre le gîte et le couvert, explique Grégory Lambert, entomologiste à l'entente interdépartementale de démoustication Méditerranée. L'opérateur public chargé de la lutte contre les moustiques dans le sud de la France, son rayon d'action est limité si bien qu'il vit et se nourrit dans un petit périmètre. Le moustique tigre a besoin d'humidité pour survivre et les maisons individuelles avec des jardins possèdent de multiples sources d'eau potentielle. Il se distingue de ses congénères par sa capacité à transmettre à l'homme des maladies virales comme la dengue ou le chikungunya. Limiter son développement sur le territoire de la métropole est donc une question de santé publique. Cela passe par une mobilisation citoyenne, insiste Caroline Navarre, conseillère métropolitaine déléguée à la prévention santé.
Aucun remède n'existe actuellement pour repousser définitivement ce petit envahisseur. Pour freiner sa progression, une seule alternative est possible, faire la chasse au point d'eau à domicile. Les adultes commencent à piquer en mai jusqu'en octobre, mais leurs larves sont présentes dans les jardins dès le mois d'avril. Il est donc essentiel d'agir dès maintenant chez soi, car chaque femelle pond environ 200 œufs qui, au contact de l'eau, se transforment en larves, détaille Grégory Lambert. Nous conseillons donc aux particuliers de faire le tour des jardins une fois par semaine et de vider tous les récipients pouvant contenir de l'eau et ensuite de les retourner. Pour éviter les piqûres, le port de vêtements longs et amples, l'installation de moustiquaires et l'utilisation de répulsifs sont recommandés. Des gestes simples, rapides et d'une efficacité redoutable s'ils sont répétés. Il est temps de mettre au sec les moustiques tigres.
Pour en savoir plus et pour toute demande d'information ou d'intervention, vous pouvez contacter l'entente interdépartementale de démoustication Méditerranée au 0825 399 110 ou par le biais de leur site internet eid-med.org.
Le saviez-vous? Contrairement aux idées reçues, c'est l'homme qui contamine au départ le moustique-tigre. Après un séjour dans une zone à risque comme les Antilles, l'Afrique ou l'Asie, les personnes infectées par un virus ou une maladie transmettent leur pathologie à l'insecte au moment de la piqûre. Ce dernier contamine ensuite à son tour ses prochaines victimes humaines.
La recherche à la rescousse. Pour les scientifiques, l'éradication totale de l'espèce n'est pas envisageable. Il ne s'agit pas de la faire disparaître, mais de limiter la gêne qu'elle occasionne à un seuil tolérable, précise Frédéric Simard, directeur de l'unité de recherche MIVEGEC à l'IRD. Face à ce redoutable insecte, les chercheurs ne sont pas dépourvus de moyens. Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude au sein de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD de Montpellier, spécialisé dans les maladies infectieuses. Des travaux sont menés pour mettre au point de nouveaux insecticides contenant des régulateurs de croissance afin de neutraliser les larves. Ils permettraient de cibler uniquement l'espèce concernée sans nuire aux autres insectes environnants comme les papillons ou les abeilles, précise Frédéric Simard. Le projet le plus abouti actuellement est la production en masse de mâles stérilisés pour venir perturber la reproduction de l'espèce. Cette technique sera prochainement testée à La Réunion, une région particulièrement touchée par le moustique-tigre.
Alors, quelques recommandations à votre domicile, surtout supprimer les eaux stagnantes. Jardinières et pots de fleurs, eh bien vous optez pour un arrosage raisonné.
Ranger le matériel de jardin ou les jouets pour éviter qu'ils se remplissent d'eau de pluie.
Pour les seaux, les vases et les soucoupes sous les pots de fleurs, il faut les vider une fois par semaine ou remplacer l'eau des soucoupes par du sable humide.
Les piscines, entretenir et bâcher, évacuer les eaux stagnantes.
Pour les réserves d'eau, il faut couvrir avec une moustiquaire ou un autre tissu.
Entretenir régulièrement les gouttières et les rigoles pour le bon écoulement des eaux.
Et puis pour les bassins d'agrément, eh bien y introduire si possible des poissons rouges friands de larves.
Le dossier.
Climat, des solutions d'avenir. À l'aube de la conférence des Nations Unies sur le climat, prévue à partir du 30 novembre au 11 décembre, la situation planétaire reste cruciale. L'objectif de ce grand rendez-vous, conclure un accord international pour maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés. À travers son plan climat 2013-2018, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte par le gouvernement, Montpellier Méditerranée Métropole s'est saisie de cette problématique. La métropole renforce ses efforts tout en soutenant les initiatives menées par les communes de son territoire et en encourageant les habitants à poursuivre leur comportement citoyen. Mobilisons-nous, ça chauffe.
La métropole, Bayargues, Castelnau-le-Lay, Lattes, Montpellier et Pérol ont adopté le plan climat 2013-2018 afin d'optimiser au niveau local l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Un programme d'action mutualisé ouvert à l'ensemble des communes de la métropole pour préparer l'avenir de notre territoire. Le réchauffement climatique est inéluctable. Nous avons gagné 0,85 degrés depuis le début du XXe siècle avec des conséquences sur l'environnement. Il va se poursuivre et nous devons nous adapter, constate Serge Planton, responsable du groupe de recherche climatique à Météo France. Il est toujours temps d'agir car le rythme du réchauffement va dépendre des émissions que l'on produira. Notre territoire fait partie des espaces les plus exposés. Selon une récente étude, les eaux de la mer Méditerranée gagneront 2 à 4 degrés supplémentaires d'ici 2100 avec des effets catastrophiques sur l'écosystème. Dans le même temps, les scientifiques prévoient que le climat des zones méditerranéennes deviendra plus chaud et plus sec.
Avec son passage en métropole, la collectivité hérite de nouvelles compétences dans le domaine de l'énergie, telles que la contribution à la transition énergétique, le soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, les concessions de distribution d'électricité et de gaz, ainsi que des réseaux de chaleur et de froid. De nouvelles compétences synonymes de plus grandes marges de manœuvre, mais aussi davantage de responsabilités. Il faut envisager le développement durable avec du bon sens, ne pas aller vers un suréquipement de notre territoire, mais avec l'ambition de participer à notre échelle à la réduction de la consommation d'énergie, insiste Stéphanie Janin, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au développement durable du territoire. À terme, il va être nécessaire de raisonner au-delà des frontières administratives et pourquoi pas de mettre en place des coopérations à l'échelle du pôle métropolitain avec les intercommunalités voisines.
Une métropole dense, non énergivore, desservie par les transports en commun et avec une qualité de vie préservée. C'est le modèle défendu par le plan climat porté par la collectivité et labellisé par le gouvernement. Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Pour y parvenir, l'une des solutions réside dans l'aménagement durable de nos terres et également sur le projet de cité intelligente prévoyant la création de services innovants pour les habitants, notamment au niveau de la maîtrise de la production d'énergie propre, analyse Stéphanie Janin. Pour l'ancien délégué général d'Energy Cities, une association européenne européenne de villes en transition énergétique, Gérard Magnin, la France est très en retard pour réduire l'importation d'énergies fossiles polluantes. Les villes et les collectivités territoriales ont une responsabilité. Elles doivent assurer leurs propres besoins énergétiques sous l'impulsion de l'État par un recours plus important aux technologies renouvelables. Le projet de loi de transition énergétique, actuellement en discussion en France, et la conférence internationale sur le climat de Paris sont deux rendez-vous décisifs pour l'avenir.
Des solutions locales face à un défi mondial. Les bâtiments et les transports sont les deux premiers postes